Le deuxième congrès européen des professeurs de français se tiendra à Prague la semaine prochaine, de jeudi à samedi. 5 ans après Vienne, la capitale tchèque accueille cette prestigieuse rencontre dont le principal objectif pour les organisateurs comme pour les participants, et en premier lieu les professeurs de français et les spécialistes de la langue et de l'éducation en provenance de toute l'Europe, sera d'abord d'initier la mise en place d'une politique commune européenne pour le français. Un aspect sur lequel nous reviendrons dans nos émissions la semaine prochaine, Radio Prague étant un des partenaires médiatiques du congrès. Mais avant cela, Doina Spita de la Fédération internationale des professeurs de français, organisatrice du congrès, a répondu aux questions de Radio Prague, et en tant que présidente de la commission pour l'Europe centrale et orientale de cette même fédération, Doina Spita a d'abord expliqué au micro de Guillaume Narguet le choix de Prague.
Alors, le premier congrès européen des professeurs de français a eu lieu à Vienne, comme vous avez compris. Le congrès européen réunit les deux commissions Europe, à savoir la commission pour l'Europe de l'Ouest, dont Vienne faisait partie, et l'Europe centrale orientale. Donc on s'est orienté vers d'abord, c'était une raison, un premier tri, un pays appartenant à l'Europe centrale et orientale. Ensuite, on a eu plusieurs candidatures, donc l'appel avait été lancé auprès de notre commission seulement, et on a eu plusieurs candidatures. Alors pourquoi Prague parmi les candidatures présentées? D'abord par la force de l'association locale. Ils mettent en place tous les ans divers événements à caractère scientifique, dont un devenu traditionnel. Ça, c'est important. Ensuite, parce qu'il y a un soutien de très grande qualité ici à Prague, à savoir l'ambassade de France et l'Institut français qui sont vraiment, on trouve, très efficaces. L'enseignement du français. Et une troisième raison, parce que c'est très bien placé au centre de ce monde qui est le monde européen, ça veut dire accès facile. Donc une dernière raison, disons dans une perspective pragmatique, c'est accessible, c'est central, et puis c'est tellement riche en valeurs culturelles, donc très 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 attrayant.
Que savez-vous de la place du français en République tchèque?
On sait que comme partout dans le monde, ou dans la plupart des pays, le français a baissé. Ça veut dire le nombre d'apprenants choisissant le français est en baisse par rapport à l'anglais. Si je me place à nouveau dans une perspective pragmatique, alors quel est le monde de demain? Qui existe déjà, qui se dessine depuis aujourd'hui. C'est heureusement un monde où les gens bougent, où il y a énormément de mobilité, où pour se comprendre, il faut connaître des langues. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et là, il y a plusieurs solutions. Il y a cette langue qui est l'anglais, qui est devenue la langue connue par la plupart. D'accord. Mais il y a d'autres solutions aussi, parce que qu'est-ce qu'on fait si on abandonne la diversité linguistique? Mais le monde, s'il est beau, c'est qu'il est riche en diversité. Alors on ne peut pas renoncer aux langues. Et notre plaidoyer, c'est en faveur de la maintenance dans l'école, dans l'enseignement, de plusieurs langues, dont le français. Maintenant, donc on n'est pas en concurrence négative, parce que c'est tellement riche du point de vue culturel, le français. Il est porteur de valeurs extraordinaires, de belles traditions. Alors on ne peut pas abandonner toutes ces valeurs en faveur d'un pragmatisme qui nous conduit vers un simple instrument de communication.
Une responsable de l'association tchèque des professeurs de français disait que plus que la quantité, le nombre d'étudiants qui apprennent le français, le plus important, c'est la qualité de l'enseignement. Pensez-vous que c'est vrai pour tous les pays?
Oui, c'est vrai pour tous les pays. C'est vrai pour tous les pays. C'est pourquoi on s'investit tellement. Notre premier objectif est représenté par l'amélioration de la qualité de l'enseignement. par des formules innovantes, attractives, en accord avec le public qui change énormément comme profil d'un jour à l'autre. Il y a un écart entre les générations. C'est une réelle gymnastique de s'adapter. Je crois que un des devoirs essentiels du professeur est de rester jeune. Ça veut dire... C'est un enjeu de plus en plus important. Plus le temps passe, plus ça devient un enjeu. Mais quel bel enjeu, n'est-ce pas? Rester jeune, ça veut dire quoi en fait? Non pas imposer sa manière de penser, sa manière de faire, mais essayer de l'adapter à la manière de faire du public auquel on s'est, en l'influençant, non pas en abandonnant les vraies valeurs, mais en essayant de raccrocher le public, de l'inviter, de l'attirer, voilà, c'est ça. Et ça se fait par le biais du français, on y croit fort.
Beaucoup de Tchèques disent souvent, oh, le français c'est une langue magnifique, j'aimerais parler, mais c'est difficile. Que faire par rapport à ça? Et l'enseignement du français, je veux dire, la popularisation de la langue française, ne souffre-t-elle pas également d'une image un peu négative de la France en tant que telle?
Ben voilà, on tourne en rond parce que, heureusement, ce n'est pas du tout négatif, on tourne en rond parce qu'on revient à la qualité de l'enseignement. Alors, c'est un devoir, celui de se moderniser. Moderniser, ça veut dire, bien sûr, changer sa représentation qu'on a des langues, mais changer aussi la méthodologie de travail. Alors, je vais citer un professeur de l'Université libre de Bruxelles, qui dans une conférence disait, à propos du sujet que vous avez attaqué, les professeurs de français sont souvent comme des pompiers pyromanes. Parce que si on commence à enseigner une langue, à donner une règle et ensuite à énoncer la vingtaine d'exceptions qui suivent, bien sûr que c'est décourageant. Et il faut au contraire profiter de toutes les acquisitions linguistiques qui se trouvent dans le cerveau des apprenants pour les aider à maîtriser, à découvrir, à maîtriser, à intégrer d'autres langues. C'est ça l'enjeu. Ce n'est pas, on n'est pas en faveur des approches normatives, mais on est en faveur d'approches ouvertes qui aillent même dans la direction des compétences partielles. Donc il y a un enseignement des langues très différent par rapport au modèle traditionnel qui est en train de se mettre en place. Quand je dis compétences, parce que selon la représentation traditionnelle, je connais une langue, si je peux la bien comprendre à l'écrit, la bien maîtriser à l'oral, à bien produire à l'oral, donc parler, et aussi lire. Si je n'ai pas les quatre compétences que je viens d'énumérer, c'est ce que je ne suis pas bon, je ne connais pas cette langue. L'idée actuelle, elle est différente parce que chaque individu, d'abord, a des accès différents vis-à-vis des langues. Je peux avoir des acquisitions langagières en regardant des émissions à la télé. Une langue, on la connaît pas seulement à travers les systèmes traditionnels, les systèmes éducatifs de l'école. Comme je le disais, les gens bougent. Alors, je peux avoir des compétences en telle ou telle langue de manière différente. Je peux comprendre un texte écrit dans une langue. Et en même temps, pour la même langue, être incapable de comprendre à l'oral. Est-ce que cela veut dire que je ne la connais pas? Non, je la connais, mais partiellement. Et je mets en jeu seulement un type de compétence sur les quatre. Voilà un exemple de modernisation et d'adaptation de l'enseignement en fonction, justement, de ce monde qui a changé de configuration.
Pour en revenir au congrès qui va se tenir à Prague, quels seront les grands axes de réflexion? Qu'est-ce que la Fédération internationale attend de ce congrès? Quels sont les objectifs de ce congrès? Qu'est-ce qui doit ressortir?
Le principal objectif, c'est de réaliser des échanges entre les professeurs et des transferts de bonnes pratiques et surtout de pratiques innovantes. Parce qu'on est au cœur même du problème. C'est comme ça qu'on peut attirer d'abord et ensuite fidéliser un public en faisant un travail de qualité. Et l'enjeu le plus important est placé à ce niveau-là.
Dernière chose, forcément vous allez me répondre que oui, mais êtes-vous optimiste ou un peu pessimiste par rapport ou concernant l'avenir du français, généralement la place du français dans le monde?
Bien sûr que je suis optimiste, parce que je crois fort, comme je le disais, aux valeurs que le français porte. Et donc sa place sera toujours essentielle pour le patrimoine universel de l'humanité. Mais je dois nécessairement compléter cette affirmation en disant que finalement, on ne peut pas parler de grandes et de petites langues, parce que toutes les langues sont, chacune à son tour et à sa manière, représente une contribution vraiment essentielle et incontournable et indispensable du patrimoine universel.